L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour à tous, qu'il est bon de se retrouver pour vivre cette heure de pointe en ce 8 décembre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et au sommaire de ce magazine, d'abord un tour d'horizon de l'actu de la semaine avec nos chroniqueurs Gérard Croza et Andy Barégeau. Bonjour à tous les deux. Et puis un invité avec nous cette semaine, l'abbé Baptiste Pochulu. Bonjour à vous, abbé Baptiste Pochulu.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la liturgie et maître de chapelle au sanctuaire de Lourdes. Avec vous, nous parlerons liturgie en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception et en ce temps de l'Avent. La liturgie, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi et comment ce sujet est potentiellement un sujet sensible? Eh bien, vous nous direz tout.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Allez, on commence cette première partie d'heure de pointe de ce magazine avec vous, Gérard Croza et Andy Barégeau. C'est le tour d'horizon de l'actu hebdomadaire. Gérard Croza, vous vouliez nous parler des mentalités. Alors, expliquez-nous tout.
Oui, en fait, ça englobe toute l'actualité, si j'ose dire. Je trouve que l'on vit dans un drôle de monde où, en définitive, on ne se parle plus en tant qu'être humain, mais en tant qu'idéologue, d'un côté ou de l'autre. Je trouve que, voilà, alors on est ou pour les musulmans ou pour les juifs. On peut regretter la violence des uns et des autres, mais à ce moment-là, c'est qu'on est contre eux et donc on est antisémite ou anti-musulman. Je trouve qu'on porte beaucoup d'arrêt sur les autres. Beaucoup de jugements. Ça me fait penser à cette phrase, c'est une de mes préférées dans l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et je crois qu'on vit, et alors en ce temps de Noël, en ce temps de qui peut être un temps, bon, alors bien sûr, il y a l'euphorie commerçante, etc., mais à la limite, pourquoi pas, une joie un peu, où on pourrait arriver à se retrouver, se parler.
Vous trouvez qu'on est mis facilement dans un camp ou dans un autre?
On est mis dans un camp ou dans un autre. Si on reste au milieu, c'est qu'on est des égoïstes. Et alors que tout est partagé. Et je crois que nous devons essayer de réinventer un monde où on va juste dialoguer, se parler aussi.
S'écouter surtout.
Et s'écouter.
On se parle quand même malgré tout. Je trouve que les gens ne se sont jamais autant parlé par quelque biais que ce soit. Mais ils s'écoutent de moins en moins en fait. C'est ça le paradoxe en fait, je trouve. On ne sait plus écouter. C'est un peu le...
On ne sait plus écouter. Ou les gens... Ou si on salue dans la rue, on nous regarde en nous disant « mais je ne vous connais pas
». Oui, on a l'air de vieux cons en disant ça. Enfin, moi, c'est malheureusement...
Alors, c'est vendredi soir, on se lâche un peu sur le langage.
Il y a de ça.
Mais c'est vrai, mais c'est peut-être ce sentiment que je sais pas, qu'il y a plus la possibilité d'être en retrait aussi, d'être d'avoir un abus vie qui est peut-être plus modéré, ou pas forcément raisonné, mais juste modéré. Enfin voilà, tout n'est pas noir ou blanc, hein.
C'est-à-dire aussi que tout le monde a un avis sur tout, même sur des sujets qu'on ne connaît pas.
Et c'est le problème, qu'on ne maîtrise absolument pas. Ouais. Il faut avoir un avis. Des fois, on peut juste se garder de donner le sien. C'est déjà alors, bonne réflexion, hein, je trouvais.
Je risque de me faire taper dessus par un journaliste professionnel. Je suis entre deux journalistes là. Mais les médias n'aident pas, enfin les médias au moins télévisuels.
Mais c'était un petit peu là où j'allais venir.
Ah bon. N'empiétez pas sur le sujet d'Andy Barégeau, s'il vous plaît, Gérard Croza.
Je crois qu'on a besoin, alors j'ai employé un mot qui n'est peut-être pas très évangélique, mais on a besoin aussi du rêve, quoi, en même temps. On a besoin de se retrouver humain, de voir un enfant qui parle, qui court, qui est heureux, c'est formidable. C'est ça aussi notre humanité.
Abbé Baptiste Pochulu, vous partagez ça? Vous trouvez qu'on est comme ça, un peu tout le temps sur la défensive ou sur l'offensive?
Je rejoins ce que vous disiez, Andy, par rapport au fait de s'écouter. Il y a un peu l'épée que vous plantiez vous-même dans les médias, et surtout l'info continue, voilà. En tout cas, quelque chose de l'ordre de l'instantané. Voilà, on a tous des smartphones, on est tous habitués, comme on dit en bon français, à scroller, donc voilà, à se nourrir d'infos, d'images en permanence. Certes, on communique très très vite, mais on prend pas le temps. On ne prend pas le temps ni de s'écouter, ni de s'apprécier. Et donc, aujourd'hui, le fait d'être mis dans des cases, le fait de cette communication instantanée et ultra rapide, voire trop rapide, tue le temps. Et en tuant le temps, en effet, peut-être que les amalgames, le fait d'être mis dans des cases, se fait beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Et voilà, cette peur du temps. Et ça rejoint, je crois, ce que vous disiez, Gérard, voilà, de voir un enfant qui grandit. Fait, voilà, ce temps, quand bien même il était le fils de Dieu, il a fallu 9 mois pour que la Vierge Marie mette au monde son fils.
C'est vrai que
n'a pas peur du temps.
Ouais, mais le temps est une richesse aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne mesure pas à quel point ça peut l'être, d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire, c'est à un moment où la réflexion nous demande peut-être de plus en plus de temps. On voit qu'à tous les classements, quels qu'ils soient, on régresse en termes d'intelligence de nos enfants et tout ça. Donc c'est peut-être au moment où il faudrait qu'on prenne le plus le temps de réfléchir que ce temps-là, on l'a peut-être pas. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez, assez paradoxal et malheureusement assez dangereux parce que c'est la proie à ne plus réfléchir et à adopter des postures qu'on peut regretter très vite et qui sont surtout pas forcément adapté ou pas forcément bienvenu ou juste...
Souvent comme ça qu'on tombe dans l'agressivité, la précipitation la formulation de réponses qui sont un peu vives.
C'est pas l'intelligence des enfants qui régresse.
Leurs
compétences intellectuelles qui ne sont pas exploitées certainement comme ils devraient l'être. Je n'ai pas de smartphone. Ah. Je fais partie des rares, on me le reproche assez d'ailleurs, mais je n'ai pas de smartphone et j'avais l'habitude de dire, quand j'étais en activité à mes élèves, je leur disais, vous savez, ce ne sont pas des moyens de communication, c'est des moyens d'égo-munication. Je reçois. Et alors j'avais envie de vous lire un poème.
Ah bah allez-y, oui, Gérard le poète.
Enfin, un poète ou un texte.
On peut tous se permettre le vendredi soir.
On peut tous se permettre,
c'est la fête.
Je vous dirai de qui il est après. Enfin, il n'est pas de moi, hein, toujours, rassurez-vous. À tous ceux qui parlent au vent, les fous d'amour, les visionnaires, à ceux qui donneraient vie à un rêve, les rejetés, les exclus, aux réels ou suspects fous, aux hommes de cœur, à ceux qui persistent à croire aux sentiments purs, à tous ceux qui se déplacent encore. Un hommage aux grandes impulsions, aux idées et aux rêves, à ceux qui n'abandonnent jamais, ceux qui sont ridiculisés et jugés, les poètes du quotidien, pour les héros oubliés, pour les vagabonds, pour ceux qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, à tous les chevaliers errants qui ont parcouru le monde ou qui le feront un jour.
De qui est ce beau poème, Gérard Croza ?
Miguel de Cervantes, c'est dans Don Quichotte. Et c'est l'introduction d'un livre qui vient de sortir, que je recommande, chez Labor et Fides, Le pasteur et l'évêque, un dialogue entre Monseigneur Vesco, qui est archevêque d'Alger, et Samuel Amedro, qui est un pasteur. Et ils ont fait un échange épistolaire que moi je trouve remarquable. Bon.
Lettre pour faire tomber les murs, pour peut-être aussi faire changer les mentalités. C'était le sujet qui vous interpelle cette semaine, Gérard. Merci. Andy Barrejo.
Bon, effectivement, j'ai l'impression qu'on va un petit peu se croiser. Moi, je voulais revenir justement sur la semaine de la laïcité, donc, qui est actuellement en route, et qui se termine donc ce vendredi. Alors, c'était justement pour moi, pour un peu, et finalement, j'ai un peu marqué contre mon camp, puisque c'est un peu pour lutter justement contre un peu ce tout religieux qui, je trouve, dépasse finalement la base et le fondement un petit peu de la religion, qui est quand même quelque chose de très privé, de très personnel, de très intime, et qui aujourd'hui se retrouve partout, beaucoup trop, j'ai l'impression, y compris, on parlait de nos enfants, et mes souvenirs de quand j'étais gamin, c'est que je savais même pas quelle était la religion de mes camarades, en fait. Et aujourd'hui, c'est devenu presque quelque chose qu'ils se disent ou qu'ils s'échangent dès le départ avec « il faut être de telle ou telle religion » ou « quelle est la tienne ?»« qu'est-ce que tu... » Mais bon, j'ai envie de dire, les gamins, vivez d'abord avant de partager, avant de peut-être que quelque chose d'autre vous dicte quoi que ce soit.
Vous trouvez qu'on manque de pudeur sur notre foi ?
Je trouve que ça... ça va trop dans l'espace commun, en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait appartenir à chacun, et qui appartient à chacun, et qui, quelque part, devrait rester dans, dans l'église, dans l'intimité d'un foyer ou quoi, et pas forcément être sur la place publique, puisque c'est quelque chose que... alors, je suis peut-être mal placé pour le dire aujourd'hui, mais je trouve que la place des religions est pour moi démesurée, et je trouve que c'est bien de rappeler que la laïcité, c'est de garantir à chacun, justement, de pouvoir pratiquer sa religion, et il y a très peu de pays où on peut pratiquer librement sa religion, où on peut avoir ses convictions au-delà du religieux, ses convictions politiques et tout ça. C'est vrai que la France est un pays formidable pour ça. Il n'y a pas d'autres pays qui permettent ça. Il n'y a pas d'autres pays où la République est laïque. Ici, en France, elle l'est. Moi, je suis vraiment défenseur de cette laïcité-là. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment de parfait dans l'idée dans laquelle elle a été imaginée, cette laïcité-là. Et que la fragiliser, l'attaquer aujourd'hui comme elle l'est, je trouve qu'on devrait justement entendre plus de personnes la défendre avec ses arguments valables et ses bons arguments, parce que c'est justement celle qui est garante et qui permet à chacun de penser ce qu'il veut et de pouvoir le faire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Abbé Baptiste Pouchelu, cette différence entre la liberté de pouvoir vivre pleinement sa foi dans un pays et puis cette condition de ne pas trop l'annoncer, c'est ce que nous dit Divergent, pour pas empiéter sur l'espace
public. C'est la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire. Mmh. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui, c'est ça, et de laisser libre cours à chacun de le faire, en fait, c'est ça.
Alors, chez nous, on parle beaucoup du zèle missionnaire, alors comment on fait pour entendre ça et ne pas être en contradiction?
Alors, le zèle missionnaire n'est pas à confondre avec prosélytisme. Voilà, il faut pas confondre les deux. Dans le zèle missionnaire, il n'y a aucune obligation à croire. C'est offrir par le témoignage qui peut prendre mille formes. Ça peut être par une conférence qui va être de l'ordre d'une conférence publique. Ça peut être par un engagement au service de la société dans le cadre d'un engagement d'église, qu'il soit associatif ou je ne sais quoi, qui va permettre, au nom de mon appartenance à Jésus-Christ, je me mets au service de mon prochain. Voilà peut-être le premier zèle missionnaire. Mmh. Au nom de mon appartenance à Jésus-Christ, je me mets au service de mon prochain. Mon prochain, c'est ça peut être la société dans son ensemble, ça peut être on fait un tour d'horizon de l'actualité, des choses que j'ai pu entendre en entendant des podcasts dernièrement, des publicités pour l'aide à l'église en détresse. C'est-à-dire cette association qui permet aux chrétiens en Terre Sainte particulièrement d'aider leurs frères et sœurs en humanité. Eh bien, en humanité, pas seulement leurs frères et sœurs chrétiens, eh bien, à pouvoir retrouver des conditions de vie dignes dans des terres qui, aujourd'hui, sont complètement meurtries. Donc, le zèle missionnaire n'est pas prosélytisme. Et le zèle missionnaire, c'est offrir à son prochain ce message de la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité pour que le monde ait la vie éternelle.
C'est de la solidarité, au final. Enfin, c'est ça. Enfin, moi, ce que je trouve que, en fait, au contraire, je trouve que ces convictions-là sont très pertinentes, et encore plus aujourd'hui, où ce monde se renferme sur lui-même, où l'égocentrisme et où finalement l'aller vers l'autre a tendance à disparaître, hélas. Je trouve que ça doit dépasser les religions, au final. Et qu'au final, on met du religieux un petit peu partout, tout le temps. Et je trouve que c'est trop, au final, quel qu'il soit. Hein, mais je trouve qu'on est dans un pays qui a su s'émanciper et qui permet justement à chacun de faire ses choix sans les imposer aux autres. Mmh. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, un peu me déplaît actuellement.
Et que vous vouliez mettre en avant durant cette semaine de la laïcité. Voilà. D'ailleurs, une semaine dont on n'a peut-être pas
très
beaucoup
peu parlé au final. Voilà.
Pourquoi comment
c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, justement, ce serait peut-être bien de s'arc-bouter et de défendre un petit peu ce principe-là. Je m'étonne qu'on le fasse si peu. Peut-être parce que tout n'est que ou religieux ou politique en ce moment. C'est un peu le côté navrant de la chose et de l'actualité.
Et voilà, on n'a pas parlé beaucoup politique en tous les cas pour cette revue de presse, ce tour d'horizon. Gérard Crozat, vous vouliez dire quelque chose?
Je voulais répondre au père en disant qu'en définitive, c'est une des leçons de Kérigma.
Alors, kérigma, il faut rappeler ce que c'est cet événement qui a eu lieu à Lourdes.
Voilà, au mois d'octobre, où on a rappelé que ce qu'était le kérigme, c'est-à-dire Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Moi, j'aime pas le nous, alors je dis pour moi, et pour toi, et pour lui, et pour elle. Parce qu'il le fait, il ressuscite individuellement, si j'ose dire, quoi. Enfin, pour chacun de nous individuellement. Et avec ce qu'on est, avec notre histoire, etc. Et ce kérigme doit nous aider justement à vivre la solidarité. C'est ça. Sinon, je ne suis que celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère, qu'il voit tous les jours, celui-là est un menteur. C'est pas moi qui vous insulte, c'est Saint-Jean.
Et voilà, c'est la conclusion de cette première partie. On écoute Frank Sinatra. Voilà, c'est vendredi soir, nous sommes le 8 décembre et nous écoutons un peu de musique pour nous détendre avant de retrouver la deuxième partie.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. City that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Start of it in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.
Allez, c'est la deuxième partie de cette heure de pointe, ce magazine qui vient clôturer votre semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et pour la deuxième partie de cette émission, eh bien, nous allons donner la parole à notre invité de la semaine, Abbé Baptiste Pochulu. Bonjour à vous, rebonjour à vous.
Rebonjour.
Alors vous êtes le responsable de la liturgie et maître de chapelle au sanctuaire de Lourdes. Alors vous aurez l'occasion de nous expliquer ce qu'il y a derrière tous ces mots-là parce que on n'est pas sûr de tout bien comprendre. Mais d'abord on va mettre un peu les pieds dans le plat, la liturgie. La liturgie, c'est un mot qui fait parfois bondir. grandir, qui fait écarquiller les yeux quelquefois. On ne sait pas toujours bien ce que c'est. Comme on disait dans la première partie, on a toujours un avis sur tout. Et c'est souvent le cas pour la liturgie. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur la liturgie. On ne sait pas toujours bien ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est que la liturgie ? Ça vient d'où et à quoi ça sert ?
Alors, s'il fallait résumer la liturgie de manière très simple, c'est l'action de culte que rend un peuple à Dieu. Pour résumer, vraiment, voilà. C'est derrière liturgie, on a deux termes grecs qui nous renvoient à la fois au terme de peuple et au terme de service. Et avec le temps, notamment avec Saint Paul et les premiers pères de l'Église, donc les auteurs chrétiens jusqu'au VIe siècle, voilà. Liturgie, c'est ce service de culte que rend le peuple à Dieu.
Donc c'est la manière de célébrer Dieu.
Alors c'est la manière de célébrer Dieu, c'est la manière de prier, c'est la manière de rendre grâce, c'est la manière de demander. La liturgie, elle recouvre beaucoup de domaines. On a peut-être tendance à penser, quand on parle de liturgie, à penser messe.
Oui, on pense que c'est la manière de célébrer la messe, tout
exactement.
Simplement.
Quand on parle liturgie, on pense messe, on pense Eucharistie. Mais en fait, la liturgie, c'est tout acte de culte que chaque chrétien est invité à rendre à Dieu. Ça va être un acte de culte public, avec bien sûr la messe. Mais ici à Lourdes, comment ne pas penser aux processions qu'a demandé la Sainte Vierge ?
Les processions, ça fait partie de la liturgie.
Exactement. Ça fait, c'est quelque chose qui est dans la mission qui m'est confiée ici au sanctuaire. Mm-hmm. Donc il y a en effet la messe, il y a effectivement les processions, la liturgie, une liturgie personnelle, ça va être le temps que chacun va passer dans un temps de cœur à cœur avec Dieu.
La liturgie, ça peut être aussi personnel, c'est pas forcément les moments en commun avec ce que certains pourraient appeler une sorte de mise en scène. Alors pour d'autres, c'est un élément essentiel pour la foi, pour la prière, et puis pour certains, ça peut être une espèce de mise en scène, la liturgie. Il y a les couleurs, il y a les vêtements, il y a
alors,
y a tout ça.
Là-dessus, vous voyez, voilà, la liturgie, c'est quelque chose de personnel, mais c'est pas quelque chose de privé. Quand je dis que la liturgie, elle a une dimension personnelle, c'est-à-dire que voilà, ma prière à moi, comment je vais rentrer dans la prière, ce que je vais dire dans ce temps de prière, voilà. Et j'ai une liturgie personnelle pour me mettre en présence de Dieu et entretenir ce dialogue-là. Et ensuite, et la liturgie, elle, qui du coup aurait cet adjectif de public, voilà, quand l'Église, c'est-à-dire la communauté chrétienne, se rassemble pour prier, là, pour le coup, elle n'est pas du tout subjective. La liturgie, elle se reçoit de l'Église. La liturgie, elle se reçoit de l'Église dans sa tradition. C'est-à-dire que, voilà, on ne fait pas ce qu'on veut dans une liturgie publique, que ce soit particulièrement la messe ou peut-être même une procession. Il y a des choses que l'Église, dans sa tradition, a su accueillir, développer, mettre en place.
Et voilà. Pourtant, ça peut changer d'une paroisse à une autre, d'une église à une autre, d'un pays à un autre. La liturgie, elle n'est pas partout pareille, alors que...
C'est toute la question de l'inculturation. Il y a eu au début du XXe siècle, notamment avec les missionnaires, toutes ces missions du XVIIIe, du XIXe qui ont été apportées la foi chrétienne, que ce soit en Afrique ou en Asie, c'est posé la question de l'inculturation. Moi, j'ai des confrères et amis prêtres aujourd'hui au Cambodge. Au Cambodge, on célèbre l'Eucharistie assis.
On aurait du mal à l'imaginer ici.
Ah, ça sort complètement de nos schémas, mentaux et intellectuels.
Et pourtant, il y a le même.
C'est le même rite romain qui se célèbre dans l'église de Rome, partout dans le monde, avec des composantes culturelles locales qui ne doivent en aucun cas dénaturer le message profond qui est derrière, et surtout, quand on parle de l'Eucharistie, la présence réelle du Christ mort et ressuscité qui se rend présent sous les apparences du pain et du vin. Mmh. Voilà.
Andy Barrejo.
La complexité peut-être qui s'impose à vous, c'est de savoir à qui vous parlez. Est-ce qu'on parle à une communauté qui est existante ou est-ce qu'on parle, on s'adresse à de nouveaux fidèles qu'on cherche à, peut-être à interloquer, à interpeller, à convaincre peut-être. C'est ça la difficulté peut-être, c'est de s'adresser à ces publics différents. Alors on parle beaucoup, moi j'ai un œil peut-être extérieur là-dessus, mais la messe en latin, des choses comme ça, qui moi me parlent pas du tout. Mais est-ce que, donc ça parle à certaines personnes, mais est-ce que ça doit parler au plus grand nombre? C'est ça en fait la difficulté peut-être pour vous?
Alors ici au sanctuaire, c'est sûr que la communauté elle se renouvelle tous les jours. Quand vous êtes en paroisse, vous avez fait la communauté, vous avez les paroissiens, c'est-à-dire tous les habitants, toutes les âmes qui vivent sur un territoire paroissial sont de l'autorité spirituelle du curé. Et donc cette communauté, elle se rassemble essentiellement le dimanche. Voilà, donc on voit souvent les mêmes têtes pour utiliser cette expression-là. C'est vrai qu'ici au sanctuaire de Lourdes, la communauté, elle change tous les jours et peut-être même plusieurs fois par jour. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, 8 décembre, ça n'est pas du tout la communauté que l'on a ces temps-ci en plein hiver à Lourdes. Et ça ne sera pas les mêmes pèlerins qui seront là pour Noël ou qui seront là le 11 février. Donc, en effet, peut-être l'un des défis ici au sanctuaire à travers la liturgie, c'est de permettre, pas au plus grand nombre, mais à tous, de pouvoir entrer dans, à travers la démarche de pèlerinage, entrer dans ce service de culte que chacun est invité à rendre à Dieu. Ici à Lourdes, particulièrement par l'intercession de Notre-Dame et de Sainte Bernadette. Mais voilà, c'est faire que tous ces pèlerins qui passent, qui sont, on touche ici, l'Église universelle. Parce que, voilà, vous avez tous les peuples de la terre qui se rassemblent ici à Lourdes pour prier Dieu. Le père Brito, qui a été recteur du sanctuaire, parle de Lourdes comme étant la capitale mondiale de la prière. Donc tous les peuples viennent ici pour prier.
Et prennent Lourdes en modèle souvent.
Et Lourdes est bien sûr.
C'est un lieu exemplaire.
On pourrait le dire par rapport au champ de Lourdes qui a une place particulière. Comment tous ces peuples arrivent et tous ces fidèles arrivent à rentrer dans cette démarche de prière, de pèlerinage, dans cette démarche d'action de culte, alors qu'ils ne parlent pas la même langue, alors qu'ils n'ont pas les mêmes références culturelles. Il y a tout ce travail-là. Et c'est pour ça que quand je dis que la liturgie, elle se reçoit de l'Église, c'est pas avoir quelque chose de froid, de lisse, mais c'est qu'en ayant quelque chose qui soit le plus fidèle peut-être au texte et au livre liturgique, eh bien, ça permet à tous d'aller jusqu'au cœur de la liturgie, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du Christ mort et ressuscité, et que chacun, dans cet acte de culte universel, ecclésial, eh bien, chacun puisse entretenir cette relation personnelle et intime avec Dieu, que la flamme de la foi qui est là puisse continuer de briller et de brûler.
Pourquoi cette question de la liturgie divise à ce point et est un sujet à ce point-là sensible? D'ailleurs, souvent, on a réduit le Concile Vatican II à cette question de la liturgie. C'est dommage parce que le Concile Vatican II, ce n'est pas que la question de la liturgie, même si effectivement la liturgie a changé après Vatican II. Mais pourquoi ça divise à ce point-là?
Comme on réduit d'ailleurs le Concile de Trente bien souvent ou à la seule réforme liturgique de Saint Pie V à la suite qui a eu lieu après le Concile. Peut-être, vous disiez tout à l'heure, Andy, dans votre première intervention, les questions de foi, les questions de religion, de quelque chose de privé. C'est vrai que quand on voit la liturgie comme étant l'acte de culte que chacun rend à Dieu, on touche à l'intime. Voilà. Et cet intime, eh bien, même dans sa forme publique, même dans son, pas dans sa forme publique, dans son expression publique, ben voilà, l'intime s'exprime lui aussi. Mm-hmm. Et donc, eh bien, on va être plus à l'aise ou moins à l'aise avec telle ou telle expression de ce qui est au plus intime de nous-mêmes. Et donc, voilà, certains vont être plus à l'aise avec quelque chose de peut-être bruyant, et joyeux, comme on pourrait avoir avec le FRAT, par exemple, voilà, le rassemblement des jeunes ici à Lourdes, ou alors, en effet, avec une messe en latin, ou alors avec quelque chose de plus universel, qui serait quelque chose selon le missel de 1962, selon le Vetus Ordo, ni quelque chose qui soit complètement inventif dans la célébration liturgique.
En fait, toutes ces choses, toutes ces manières de célébrer ont leur place dans la liturgie dès lors qu'elles respectent la trame officielle, j'allais dire.
Dès qu'elles respectent la trame, et puis quand même, dès qu'elles respectent la trame, mais aussi quand elles restent dans quelque chose qui soit un peu... peut-être le mot conventionnel ne plairait pas, mais ne va pas plaire, mais voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, là on parle bien sûr de la liturgie eucharistique, il ne faut pas oublier que le Christ est réellement présent là, au milieu de nous, à ce moment-là. Et on ne peut pas, enfin voilà, c'est le Sauveur.
Tout
qui...
et n'importe quoi. C'est, voilà. En l'occurrence, il faut que ça respecte le message.
On est avec le trésor le plus précieux que le Seigneur nous ait laissé. Faites cela en mémoire de moi. Voilà, ce trésor-là, comme n'importe quel trésor, on en prend soin. Et donc, eh bien, on fait le maximum pour pouvoir le protéger, le faire fructifier, en vivre.
Mmh. Gérard Crozat.
Oui, moi je vous rejoins tout à fait quand vous pardon, quand vous dites que la liturgie elle se reçoit, il y a une tradition dans laquelle on pénètre pour l'Eucharistie. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, alors là je fais un peu l'avocat du diable, ça la fout moins que ça vienne de moi, mais enfin je fais...
Que vous êtes diacre.
Oui, voilà, oui. Est-ce qu'elle ne manque pas un peu de pédagogie tout de même, en ce sens où moi je, à toutes les messes, auxquelles je peux participer, enfin, je me dis, mais enfin, c'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est fabuleux. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Est-ce qu'il y a un vieux prêtre de Toulouse qui disait, mon péché, c'est d'avoir transformé l'Eucharistie en rite. Et est-ce que, moi je me dis toujours, mais est-ce que moi-même et les autres qui sont là, qui venons tous communier, est-ce qu'on a conscience de la révolution qui s'opère? Elle ne s'opère pas, elle ne s'est pas opérée une fois il y a quelques années. Elle s'opère tous les jours. Et c'est en cela où je trouve qu'on manque peut-être un peu de pédagogie ou, je sais pas, ou d'accueil.
Du coup, est-ce que la pédagogie ne se perd pas quand on sort un peu de ce qui est conventionnel? De ces sentiers préparés et reçus par l'Église, voilà, quand on devient un peu trop inventif, est-ce que c'est pas là que du coup on s'éloigne de ce à quoi le rite normalement nous conduit, de pouvoir pas à pas pénétrer un peu plus le mystère pour aller, voilà. Et c'est vrai que quand on prend pour certains, une voix qui serait trop classique, avec peut-être un prêtre qui célèbre orienté et dos au peuple, avec une langue que l'on ne comprend pas. Mais il faut prendre également l'autre chemin, c'est-à-dire des liturgies avec une musique qui serait trop forte, une mise en scène lumineuse, avec un jeu lumineux pour... Voilà.
Mais le problème, c'est que ça divise et que finalement, au lieu de se dire, eh bien, moi, je préfère cette liturgie-là parce qu'elle correspond plus à ma manière de prier et je m'y sens bien et c'est ainsi que je rejoins le Seigneur. Et puis, les autres à côté, c'est différent. On voit bien, en fait, que c'est comme, il y a des jugements perpétuels et des divisions qui sont parfois virulentes. On a l'impression, là encore, on revient à l'histoire de camps, de clans.
On juge l'autre.
Pour croire à la même chose, au final. Voilà.
Pour croire à la même chose, oui. Et pour aller vers la même personne.
Je fais un parallèle peut-être sportif. Soit je suis de l'aviron bayonnais, soit je suis de la section paloise. les amateurs de rugby
pourront comprendre. C'est l'ovale quand même.
Voilà, oui, mais voyez, il y a ça de commun.
Ni l'un ni l'autre.
Voilà, mais parce que oui, je sais que étant du diocèse de Bayonne, forcément, je parle de ce que je peux avoir connu. Mais en effet, on touche à l'intime. On touche à l'expression de la foi et comment chacun est rejoint dans ce qui est au cœur de lui-même, de ce qui nourrit sa vie, de ce qui peut même, on pourrait même dire, je pense, enflamme sa vie. Voilà. Là encore, s'enfermer dans un camp ou dans l'autre. C'est pas la voie de l'Église.
On voit bien même que quand le pape François lui-même écrit sur cette question de la liturgie dans un motu proprio, dans sa dernière lettre Desideravi, d'ailleurs que j'invite vraiment les auditeurs à lire. Même ça, c'est pas ou mal compris. Même ça, ça fait du remous dans les communautés chrétiennes. C'est étonnant quand même. C'est étonnant de voir que même la parole du Saint-Père sur cette question de la liturgie, elle pose problème.
Saint Ignace d'Antioche, donc qui est évêque d'Antioche au 1er siècle, a été celui qui fait partie des premiers pères de l'Église qui permet d'entrer dans ce ministère un peu primatial de l'évêque de Rome, et en parlant de lui comme étant celui qui préside à la charité. Voilà. Le pape, dans ses documents sur la liturgie, comme le capitaine du navire, c'est celui qui tient la barque. Et qui donc fait avancer le navire de l'Église, et il est bon que le souverain pontife puisse rappeler, préciser des choses qui sont justement reçues de l'Église. Voilà. Dans les derniers documents, il y a une grande insistance sur le silence. Dans Rio Desideravi, il y a toute une réflexion aussi sur l'ars celebrandi, c'est-à-dire cette manière de célébrer, cet art de la célébration. C'est-à-dire que c'est pas toujours contre les mêmes que le couperet tombe, mais avec cette dernière lettre. Et puis il y a également une lettre au peuple de Dieu où on rappelle l'importance du silence dans la liturgie. Moi, quand on me parle de silence dans la liturgie, ça me fait plutôt penser à une abbaye bénédictine. Et donc, quelque chose d'assez classique, voilà, avec, vous savez, ces cloîtres médiévaux où on a cette espèce d'encens qui est encore là et ce grand silence. Quand on pense, on est un peu à 10 000 lieues d'un autre événement que serait le Frat. Donc voilà, mais c'est pas pour dire j'entretiens et j'encourage les bénédictins et il faut que tout le monde fasse comme eux. Mais c'est pour quand même rappeler que le silence. Tout à l'heure, on parlait de ce côté où tout va vite, où on prend plus le temps de s'écouter.
Les bienfaits du silence.
Et dans le silence, on écoute.
Si on veut écouter Dieu qui nous parle, comment est-ce qu'on peut l'entendre dans un brouhaha permanent, mais qui serait un brouhaha médiatique ou qui serait un brouhaha même sonore, physique, bien concret. Voilà, il faut. Voilà, donc il faut... C'est peut-être un jeu d'équilibriste, la liturgie.
Alors, c'est beaucoup d'équilibre, au final, pour arriver à satisfaire tout le plus grand nombre, là, au final.
Alors, justement, alors il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Le temps passe très vite dans cette émission. Comment on fait ? Comment vous faites, vous qui êtes, Abbé Baptiste Pochelu, responsable de la liturgie et maître de chapelle au sanctuaire de Lourdes, depuis le mois de septembre, comment vous faites pour trouver l'équilibre entre ces moments de silence qui sont, on l'entend, indispensables, et puis ces temps de, où la ferveur doit pouvoir s'exprimer par la voix des chantres, par la trompette, par l'orgue. Comment on fait au sanctuaire de Lourdes ?
C'est pas une directive que j'ai reçue, mais voilà, quand j'ai été accueilli par Monseigneur Mika, il m'a dit le missel, tout le missel, rien que le missel. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est à partir des livres liturgiques. Alors le missel, c'est par rapport à l'Eucharistie, mais pour une procession eucharistique, il y a des choses qui sont inscrites dans d'autres livres. À Lourdes, il y a aussi quand même voilà une grande tradition des processions où on a pu voilà développer une certaine liturgie. Et donc voilà, c'est puiser dans ce trésor qu'est le missel la meilleure manière de faire. Et puis ensuite, vous parliez en effet par rapport à tout cet aspect du chant, de la musique, voilà, les temps liturgiques, ont des colorations propres. Oui. Voilà, il n'y a pas que le vêtement liturgique qui a une coloration propre. Il y a également, le temps de Noël, ça n'est pas le temps de Carême.
Voilà. Et par exemple, aujourd'hui, fête de l'Immaculée Conception, qu'est-ce qu'on note dans la liturgie ?
Bah alors, on va avoir une dimension très très mariale dans la liturgie, c'est-à-dire que voilà, donc ça va être déjà les textes de la liturgie de la Parole de la Messe qui vont nous parler clairement de ce mystère de la Vierge Marie qui est là dans le mystère du Christ et dans le mystère de l'Église. Et ensuite, ça va se décliner dans différentes choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un motet. 18e siècle, qui va permettre, ben voilà, qui va être la reprise du Magnificat. On peut avoir, voilà, l'orgue aussi, et la trompette, vous l'avez évoqué, voilà, l'orgue est un instrument extraordinaire, fabuleux, qui nous permet, voilà, de donner une coloration, et peut-être certaines notes aussi, à la liturgie. Et donc, quand on pense à la Vierge Marie, voilà, il y a la joie et l'empressement de l'Annonciation. Il y a toute cette jeunesse, voilà, tout ce côté léger, mais voilà, la musique va nous permettre de vivre ça. Donc, en effet, en Carême, s'il n'y a pas d'orgue, c'est pas qu'on n'en veut pas. Mais dans un temps de pénitence, de conversion, on va avoir quelque chose de peut-être plus, un peu plus austère. Il y a encore l'austérité, on entendrait, voilà, ou en tout cas quelque chose de sobre, voilà. Et ça va se traduire musicalement, ça va se traduire par les fleurs.
Vous voyez ? Et tout ça pour accompagner la prière.
Et tout ça pour toujours accompagner la prière. Parce que c'est pas qu'intellectuel, c'est aussi, c'est aussi physique. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ avec cinq sens comme nous. Et donc, la vue, l'odorat, l'ouïe, eh bien, ça nous parle également en liturgie.
Donc, votre travail à vous au sanctuaire de Lourdes, c'est de faire en sorte de veiller à ce que toutes les personnes qui sont acteurs de la liturgie puissent respecter ces règles-là pour que les pèlerins puissent prier, tout simplement.
Les premiers acteurs, ce sont les pèlerins. Voilà. Et ensuite, il y a les différents collaborateurs du service liturgique, c'est un travail de chef d'orchestre pour que, l'organiste, le chantre, les sacristains, les cérémoniaires aussi, tout le monde puisse entrer dans cette bel acte de culte que l'on rend à Dieu.
Gérard Crozat, dernière question.
Ou deux commentaires, plus que des questions, mais enfin, la première, vous avez dit, vous avez insisté sur la diversité des gens qui viennent à Lourdes. Bon, c'est une évidence, si j'ose dire. Nous sommes en train de vivre la même chose maintenant dans les paroisses, où on fait un regroupement de paroisses, et je vois là où je suis, trois paroisses qui ont trois cultures liturgiques différentes. C'est le même style, c'est le même prêtre qui y va. Mais on les appelle à se rassembler. Donc là, il y a un effort. Et je reviens vers cette idée de pédagogie, dans ce sens où je me dis comment peut-on aider. Alors, ça, c'est peut-être pas dans l'Eucharistie même, ça va être avant, par des rencontres, etc., où on peut faire prendre conscience aux gens vraiment de ce qui est en train de se vivre. Moi, je reste un peu sur ma faim à ce niveau-là. Juste une anecdote pour finir. Ben, on va finir par la rigolade. Mais c'est la vérité. Un petit gamin qui, pendant la messe, n'avait pas remarqué que le prêtre qui célébrait avait un pansement au doigt. Il s'était blessé, il avait un urgot au doigt. Il s'en aperçoit pas. Et puis, le prêtre va ramener le ciboire au tabernacle. Il claque à la porte du tabernacle. Et là, le gamin s'aperçoit qu'il a un pansement. Et il crie tout fort dans l'église, abîmé dans la prière. « Bien fait, t'avais qu'à pas l'enfermer. » Mais je trouve ça, en même temps, et je connais les parents, et je le connais lui aussi. Bon, maintenant, il a 40 ans, il y a prescription. Mais je trouve qu'il y a une... voilà, quoi. Il y a une pédagogie aussi là-dedans.
La liturgie, enfin voilà, comme le dit le Concile Vatican II, c'est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Alors comment faire rentrer les gens dans ce mystère de ce qui nous donne la vie et de ce qui nous conduit à la vie.
Merci beaucoup, Abbé Baptiste Pochelu. Donc, je rappelle que vous êtes le responsable de la liturgie et maître de chapelle au sanctuaire de Lourdes. Merci d'avoir répondu à cette invitation en ce 8 décembre. Très belle fête de l'Immaculée Conception et puis bon temps de l'Avent à vous.
Merci
à vous
beaucoup.
Aussi, cher chroniqueur, Gérard Crozat, Andy Barégeau. On se retrouve bientôt à la fin du mois pour une nouvelle heure de pointe. Merci à tous. Très bon week-end et merci à Gilles Galbardi qui était à la technique aujourd'hui.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.